Depuis une semaine, nous avons des preuves irréfutables de la présence de missiles soviétiques sur l'île prisonnière de Cuba. Allocution du président Kennedy le 22 octobre 1962.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En 1898, Cuba avait terminé son lien avec l'Espagne et l'ancienne puissance coloniale avait abandonné l'île au profit des États-Unis qui étaient devenus la grande puissance qui influait la vie politique cubaine. Or, jusqu'en 1959, les relations entre Cuba et les États-Unis étaient des relations finalement assez proches et le dictateur Fulgencio Batista était très proche de Washington. Or, en janvier 1959, celui-ci est renversé par Fidel Castro et ses partisans. Dans un premier temps, les États-Unis reconnaissent le nouveau régime. Ce sont même la deuxième puissance qui, après l'Union soviétique, a reconnu le pouvoir castriste. Seulement, au cours de l'année 1959 et 1960, les réformes économiques que entame le nouveau pouvoir communiste à Cuba entraîne des expropriations, dont des compagnies américaines, de même qu'il y a des confiscations de biens américains comme des hôtels. Désormais, le puissant voisin américain estime que la politique économique de Castro lui est extrêmement défavorable. À la suite d'une nouvelle saisie de propriété privée à la fin de 1960, le département d'État décide, le 3 janvier 1961, de rompre les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Or, quelques jours plus tard, le 20 janvier, le président Kennedy entre officiellement en fonction. Il a essayé, dans un premier temps, et de manière d'ailleurs un peu inconsidérée, de renverser le pouvoir castriste. Du 16 au 20 avril 1961, il y a la tentative de débarquement anticastriste dit de la baie des cochons qui s'est terminée en désastre puisque ceux qui ont tenté de débarquer ont été soit tués, soit faits prisonniers. L'inconséquence de la CIA est alors pointée du doigt. D'autre part, le 1er mai, à la suite de cet échec, Ernesto Che Guevara avait proclamé le caractère socialiste de la révolution cubaine. À partir de ce moment-là, il est indéniable que Moscou voit tout l'intérêt que la puissance soviétique a à avoir un allié si proche des États-Unis. Aussi, à partir de septembre 1962, l'aide soviétique se renforce. Le problème est de savoir si cette aide est seulement économique ou si elle est également militaire. Or, le 13 septembre 1962, les États-Unis mettent en garde l'Union soviétique contre l'éventuelle installation de missiles soviétiques à Cuba. Or, le 14 octobre, grâce à un avion espion, l'administration américaine découvre qu'il y a la mise en place de missiles nucléaires SS-4 à Cuba. Peut-on, à Washington, accepter une présence si dangereuse à quelques 200 km des côtes de la Floride? Aussi, le 22 octobre 1962, le président Kennedy va prendre la parole à la télévision, dévoilant au peuple américain la présence des missiles soviétiques à Cuba.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. This offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba from whatever nation or port where they're found to contain cargoes of offensive weapons should these offensive military preparations continue, thus increasing the threat to the hemisphere, further action will be justified.
Au cours de cette allocution, le président américain annonce une quarantaine, c'est-à-dire un blocus naval de la flotte américaine sur les côtes cubaines. Effectivement, débute un vrai blocus naval et les journaux de l'époque évoquent un risque élevé de guerre. Pourquoi ? Parce qu'on apprend que des navires soviétiques sont en route pour Cuba et sont visiblement chargés de missiles soviétiques qui devaient être installés sur le sol cubain. Pendant 3 jours, entre le 22 octobre et le 25, le risque de guerre a été peut-être réel. Mais c'est difficile, effectivement, d'être avec une absolue certitude sur la détermination américaine, qui semble réelle, et sur la volonté soviétique d'éventuellement pousser très loin leur avantage. On sait par ailleurs que les alliés européens des États-Unis, et en premier lieu d'ailleurs le général de Gaulle, avaient assuré de leur appui le gouvernement américain. Le pape Jean XXIII, le 25 octobre, avait lancé un appel commun pour que les États-Unis et l'URSS entendent la voix de la raison et négocient. Le jour même, les navires soviétiques qui étaient en route pour Cuba sont bloqués et ne cherchent pas à forcer le blocus et font demi-tour. Le 28 octobre, Khrouchtchev annonce le démantèlement des armes offensives qui avaient été installées sur le sol cubain. En contrepartie, il a obtenu l'engagement de la part de John Fitzgerald Kennedy de la non-invasion de l'île et également des démantèlements des missiles américains Jupiter qui avaient été installés en particulier en Grèce et en Turquie et qui se trouvaient donc assez proches du territoire soviétique. On estime que cet accord du 28 octobre avait finalement enclenché la fin de la crise. Le 30 octobre, il y avait eu un échange de lettres entre Fidel Castro et Khrouchtchev, celui-ci promettant de continuer à soutenir la révolution cubaine. Donc, nous assistons effectivement à une désescalade. Il n'en reste pas moins vrai que cette crise a des répercussions sur les relations internationales et sur même l'évolution de la politique cubaine et soviétique. Du 27 avril au 4 juin 1963, Fidel Castro a fait un très long séjour à l'Union soviétique pour consolider les liens qui existaient entre la Havane et Moscou. Accusé par les Chinois d'avoir finalement capitulé devant l'impérialisme américain, le comité central du Parti communiste soviétique, le 14 juillet 1963, révèle que 8 mois après la fin de la crise, les États-Unis n'ont toujours pas envahi Cuba et qu'ils ont donc respecté l'indépendance de l'île. Le 5 août 1963, Moscou, Washington et Londres signent un traité sur l'interdiction des essais nucléaires dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de tenter une désescalade nucléaire. Qui plus est, on crée entre Washington et Moscou, à partir du 20 juin 1963, l'installation d'un téléphone rouge qui relie directement le Kremlin et la Maison-Blanche. Ensuite, évidemment, les conséquences sont importantes sur l'évolution de Cuba. Cuba va être désormais un pays très lié à l'Union soviétique. En janvier 1964, Fidel Castro fait à nouveau un voyage en Union soviétique. D'autre part, il y a une autre conséquence, c'est sur l'évolution même du pouvoir soviétique. En effet, le 14 octobre 1964, Khrouchtchev est limogé et remplacé au pouvoir, en particulier par Léonid Brejnev. Ce limogeage est en partie explicable par finalement le sentiment de rater que la politique de Khrouchtchev vis-à-vis de Cuba a amené en 1963 et en 1962 déjà. On accuse Khrouchtchev d'avoir finalement engagé l'Union soviétique dans une impasse en envoyant cette flotte chargée de missiles vers Cuba. D'autre part, il est probable aussi que Khrouchtchev paye les difficultés économiques que connaît alors l'Union soviétique et les réformes économiques qui sont peu appréciées par les principaux membres de l'intelligentsia soviétique. D'autre part, il faut voir que, hasard de l'histoire, ce limogeage de Khrouchtchev coïncide avec l'arrivée improvisée du président de la République cubaine, Osvaldo Dorticós, de retour du Caire, où il assistait à la conférence des pays non alignés. En tout cas, il est indéniable que, du côté occidental, cette crise a montré que les Occidentaux avaient fait bloc envers l'allié américain. Quant au président Kennedy, il en a gagné indéniablement un nouveau prestige que l'abbé des Cochons avait quelque peu écorné en 1961. Mais vous le savez, le 22 novembre 1963, celui qui était sans doute promis à une réélection aux élections de 1964 est assassiné à Dallas, provoquant la stupeur et le deuil dans le monde.